Le journal de Léonie Adrover.
Bonsoir. Port-en-Truy prévoit de se serrer la ceinture. Le conseil municipal présentera jeudi soir au conseil de ville un budget déficitaire de 87 000 francs pour l'année prochaine. Une perte limitée, mais au prix de nombreuses mesures d'économie. 25 ans après leur mise en service, les tunnels sous les Rangiers sont victimes de leur succès. 18 000 véhicules les empruntent chaque jour. Dans ce journal, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura évoque les tentatives qui ne suffisent pas à ce jour pour réguler le flux des travailleurs aux heures de pointe. Un congrès national sur la violence sexualisée s'est tenu aujourd'hui à Berne. Plus de 400 spécialistes y ont participé. L'occasion de s'intéresser au modèle suédois de droit pénal sexuel. Pluie fréquente et localement soutenue ce soir encore sous un vent fort. Les averses vont diminuer dans la nuit et cesser demain d'ici la mi-journée. On devrait avoir droit ensuite à un peu de soleil sous des températures assez douces pour la saison. Mais retour des pluies jeudi déjà. Un budget impopulaire mais équilibré pour Port-en-Truy. Le conseil municipal a réalisé de nombreuses économies pour limiter la perte prévue en 2024 à 87 000 francs. Parmi les mesures, on peut citer une baisse des investissements, le non-renouvellement d'un poste de travail, une ponction salariale pour les collaborateurs, une réduction de 5% sur l'ensemble des rubriques, une baisse des subventions ou encore une augmentation du taux de la taxe immobilière de 1,5 à 1,6%. Pour 1000. Le conseiller municipal en charge des finances, Alain Telkès, s'attend à des débats intenses jeudi soir au conseil de ville.
Ça fait des mécontents, hein, ça c'est clair. On a même, avec le conseil municipal, rencontré le personnel communal qui se montre insatisfait de cette ponction salariale. Ce qu'on a surtout voulu démontrer au niveau du conseil municipal, c'est que tout le monde vraiment se serre la ceinture pour ce budget 2024 qui, je répète, on doit vraiment tendre à l'équilibre et se sent être comptable ou autre.
Pourquoi c'était autant nécessaire de tendre à l'équilibre ?
Eh bien, si vous voulez, si on se retrouve en déficit au bilan, ben, on aura 5 années, hein, pour vraiment se remettre d'équerre. Et puis, nous n'avions pas de possibilité comptable de revalorisation de terrain ou autre, et de réserve, puisque probablement ceux-ci vont être utilisés pour les comptes 2023, pour améliorer ces comptes. Donc, il a fallu faire un budget sans ça, et donc on a dû prendre nos responsabilités au sein du conseil municipal et avec courage.
Des propos recueillis par Nancy Chapuis. Le budget 2024 sera présenté jeudi soir au conseil de ville de Port-en-Truy. La commission des finances a donné un préavis favorable, mais avec 4 oui et 4 abstentions, ce qui augure de débats nourris. L'autoroute A16, une voie qui a révolutionné les habitudes jurassiennes. Cela fait 25 ans aujourd'hui que le tronçon entre Port-en-Truy et Delémont a été inauguré. En un quart de siècle, la fréquentation a augmenté en flèche. En 2000, 9600 véhicules empruntaient chaque jour les tunnels du Mont-Russelin et du Mont-Terry. Ils sont aujourd'hui environ 18 000 selon le service jurassien des infrastructures. Cette utilisation massive provoque chaque jour des ralentissements et des bouchons à l'entrée des tubes aux heures de pointe. Plusieurs mesures ont été déployées dans les entreprises pour tenter de désengorger ces secteurs, mais elles ne sont pas suffisantes, selon Pierre-Alain Béret, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura.
Les entreprises font beaucoup d'efforts aujourd'hui pour tenter de le limiter. Certaines ont trouvé des solutions très originales pour favoriser la mobilité douce, par exemple, de leurs employés. Certaines soutiennent le covoiturage. D'autres ont mis en place des horaires flexibles pour éviter que leurs employés ne doivent arriver ou repartir tous en même temps et engorger du coup le réseau routier. Certaines encore payent une partie des abonnements de train. Enfin, il y a vraiment beaucoup de démarches qui sont faites, mais il ne faut pas oublier le cadre global, c'est-à-dire une augmentation constante et régulière du nombre d'emplois. Donc le volume global continue d'augmenter et il faut s'en réjouir. Ça veut dire que nos entreprises continuent de créer des emplois, mais évidemment, ça met aussi les réseaux de transport sous pression.
Affiner l'offre en matière ferroviaire, ça c'est une des clés selon vous ? La clé peut-être ?
L'offre ferroviaire s'est beaucoup développée ces dernières années, mais on a vu par exemple que l'offre qui était proposée avec la ligne entre le Jura et Belfort n'était pas adéquate et que du coup les travailleurs frontaliers l'utilisaient relativement peu. Donc là, il y a probablement une piste très forte d'amélioration possible. Et puis d'autres infrastructures sont encore nécessaires. Prenons un simple exemple. Aujourd'hui, à Glovelier, il n'y a pas de passage sous voie depuis la gare. C'est un projet qui est dans les tuyaux depuis assez longtemps et rien ne se passe pour l'instant. Or, un passage sous voie permettrait aux employés de la zone industrielle de se rendre à leur entreprise en quelques minutes. Donc, l'absence de cette infrastructure-là dissuade beaucoup d'employés de prendre le train. Donc, vous voyez des exemples concrets qui montrent qu'on peut encore améliorer fortement la situation pour encourager les employés à prendre davantage le rail.
Pierre-Alain Béret répondait à Michel Léoni. Un projet de sous-voie à Glovelier est effectivement sur la table des autorités de Haute-Saône qui y sont favorables, mais il se heurte à un problème de financement. L'inflation a aussi des répercussions sur la pratique du ski. L'association des remontées mécaniques suisses a récemment annoncé une augmentation de ses tarifs de 2 à 3% en moyenne. Une hausse des prix qui n'épargne pas notre région, même si au téléski des Bugnonnais-Savanières, on préfère plutôt parler d'adaptation qui ne dépassera pas 5%. La carte journalière adulte passera par exemple de 40 à 42 francs, comme l'explique Séverine Perret, membre du conseil d'administration.
Il n'y a pas du tout de volonté de faire des adaptations globales et linéaires. On a simplement, et on le fait régulièrement, adapté certains tarifs pour avoir une cohérence générale sur l'ensemble des forfaits que nous proposons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles différents qui sont proposés, qu'on parle d'abonnement horaire, qu'on parle de points, qu'on parle de demi-journée avec différentes heures de démarrage. Et puis après, toutes les catégories, enfants, étudiants, seniors, adultes, familles, etc. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de tarifs différents qui existent. Et là, on a choisi de faire quelques petites adaptations qui restent modestes, qui restent d'un maximum de 2 francs sur quelques forfaits.
Du côté des téléskis jurassiens, celui des Genevais prévoit également une augmentation de l'ordre de 5% pour faire face à la hausse des différents coûts, notamment de l'électricité. Le téléski des Breuleux n'entend, lui, pas augmenter ses tarifs pour l'instant. Plus de 400 spécialistes se sont réunis aujourd'hui à Berne pour le Congrès national sur la violence sexualisée. Ils ont fait le point sur la façon de lutter en Suisse contre le harcèlement, la contrainte et les agressions. Une experte suédoise était invitée à partager l'expérience de son pays qui a inscrit le consentement dans son droit pénal sexuel. Sylvie Durer, directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, explique pourquoi le cas de la Suède est particulièrement intéressant.
C'est un pays qui s'est beaucoup engagé dans la lutte contre les violences en général et dans la lutte contre le viol. Ils ont choisi une autre voie depuis 2018, qui est la voie dite « oui, c'est oui ». Il y a eu une réflexion en Suisse pour savoir si on allait dans cette direction ou pas. Ensuite, il y a une décision du Parlement. Mais c'est intéressant de les entendre parce qu'ils voient les applications concrètes. Nous, on n'a pas encore cette situation-là. On n'a pas encore d'application concrète, puisque la loi n'est pas encore en vigueur. Mais que ce soit le modèle « oui, c'est oui » ou « non, c'est non », on voit qu'il y a des difficultés qui seront probablement les mêmes, à savoir que quand il y a une situation de violence sexuelle, on est souvent dans un rapport d'intimité et que toute la problématique, notamment de la preuve, est extrêmement difficile à traiter. Donc c'est intéressant de voir un tout petit peu le modèle suédois, quelle est leur expérience, quels sont les éléments sur lesquels ils travaillent, comment ils font aussi de l'information par rapport à leur loi, etc. Donc il y a des enseignements à tirer, même si le modèle il est un peu différent au départ.
L'Office fédéral de la statistique a aussi dévoilé sa nouvelle rubrique consacrée à la violence sexualisée. Elle propose des chiffres détaillés sur ce phénomène en se basant sur les statistiques policières de la criminalité. L'entreprise de logiciels Concevis a été victime d'une cyberattaque. À nouveau, des données de l'administration fédérale sont concernées. Selon les informations disponibles, ces éléments contiennent probablement d'anciennes données opérationnelles de l'administration fédérale. Des analyses approfondies sont encore en cours, écrit aujourd'hui le département fédéral des finances dans un communiqué. Après le vol, les cybercriminels ont chiffré l'ensemble des serveurs de Concevis. L'entreprise a refusé de céder au chantage et les auteurs menacent désormais de publier ces données sur le Darknet. La société baloise a déposé une plainte pénale. Le taux de pauvreté s'est établi à 14,5% de la population en 2021 en France. C'est une hausse de 0,9 points par rapport à l'année précédente, en cause notamment la progression de l'inflation, indique aujourd'hui l'Institut national de la statistique.
RFJ, il est 18h10.
Sport. Le FC Basse-Cour ne sortira pas les crampons demain soir. Son match de Première Ligue de football prévu à domicile à 20h contre Emmenbrücke a été renvoyé. Le club Vadel a annoncé cet après-midi sur ses réseaux sociaux. La décision est due aux conditions météorologiques et à l'état du terrain principal des Grands Prés. C'est la deuxième fois que ce duel entre les Jurassiens et les Lucernois est repoussé après le renvoi de la rencontre du 5 novembre pour les mêmes raisons. Il sera refixé au mercredi 29 novembre ou au samedi 2 décembre. Le sport associatif se porte bien en Suisse. Les clubs ont bien résisté à la pandémie de Covid-19 et continuent de représenter un pilier important de la société. C'est ce qui ressort de l'étude « Clubs de sport en Suisse » publiée aujourd'hui. Réalisée tous les 6 ans depuis 1996, elle est effectuée par l'Observatoire suisse du sport sur mandat de Suisse Olympique. Selon ce document, 22% de la population du pays est active dans un club de sport. Cela représente 2,2 millions de membres dans un total de 18 310 sociétés. Il y a toutefois des défis à relever. Émilie Mumenthaler.
La majorité des clubs se portent bien avec des finances stables. Le nombre de membres actifs est lui constant. Mais en parallèle, le baromètre des préoccupations montre que le recrutement et la fidélisation des bénévoles, mais aussi des membres et surtout des jeunes, posent des problèmes. Pas moins de 78% du travail effectué au sein des clubs est fourni à titre bénévole. Cela correspondrait à un montant d'environ 2,1 milliards de francs si ces heures étaient indemnisées. Le suivi des finances, des infrastructures, ainsi que des réglementations en constante augmentation et des exigences administratives qui y sont liées pèsent aussi. La proportion de clubs confrontés à au moins un problème menaçant leur existence a ainsi augmenté.
Le Tour de France 2025 partira de Lille. Ce sera la troisième fois que la ville du Nord accueillera le départ de la grande boucle cycliste après 1960 et 1994. L'organisateur ASO indique aujourd'hui que les détails concernant les premières étapes seront dévoilés lors d'une conférence de presse le 30 novembre. Et puis, Holger Rune a eu besoin de moins de 20 minutes pour décrocher son premier succès dans le cadre d'un master ATP. Le joueur de tennis danois a bénéficié de l'abandon de Stefanos Tsitsipas cet après-midi, lors de la deuxième journée du groupe vert. Gêné dans ses déplacements par une blessure, le Grec a jeté l'éponge après 23 points alors qu'il était mené 2-1. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.